Les députés vont sans doute faire des heures sup. L'examen du projet de loi École de la confiance prend plus de temps que prévu. Les débats pourraient se poursuivre pendant le week-end. Il faut passer en revue tout avant le vote solennel prévu mardi. Et ce texte suscite pas mal de critiques de la part de l'opposition, comme des syndicats enseignants et des parents d'élèves. Bonjour Anne Brunira.
Bonjour.
Vous êtes députée LREM du Rhône. Vous êtes membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation à l'Assemblée. C'est vous qui gérez toutes ces questions d'éducation au sein du groupe En Marche. Comment ça se fait que ça prenne autant de temps?
Alors c'est une loi qui contient à la fois de nombreuses mesures, bien sûr, pour notre école. Vous savez, le cœur de la loi, 25 articles, et le cœur de la loi, c'est l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire de 6 à 3 ans.
On va y revenir en détail.
Voilà. Et puis d'autres mesures, d'autres outils, mais aussi, elle a tiré de nombreux amendements, à peu près 1000 amendements sur de nombreux sujets, et c'est ce qui fait effectivement débattre, et c'est des débats très intéressants.
Mais s'il y a tous ces amendements, c'est peut-être aussi parce que cette loi, enfin, je vais pas être la première à vous le dire, elle est qualifiée quand même de fourre-tout, ça part un peu dans tous les sens, donc du coup, il y a beaucoup d'amendements. Est-ce qu'il fallait pas faire peut-être une loi avec une ligne directrice un peu plus visible, claire, parce que là, on sait pas trop où on va?
Alors, c'est une loi qui est très claire, pour moi, bien sûr. Tout d'abord, avec l'instruction à 3 ans, on va en parler, et puis avec un certain nombre d'outils pour les enseignants. Mais comme à chaque fois qu'on traite de l'école, en fait, elle attire de nombreuses remarques, de nombreuses propositions, de nombreux amendements. Par exemple, on a eu de très nombreux amendements sur ce que j'appelle l'éducation A, c'est-à-dire des députés qui proposent que l'école éduque au développement durable, au numérique, à l'économie, tout un tas de sujets qu'elle traite déjà et qu'il faut débattre ensemble.
C'est plus compliqué de réformer dans le secteur scolaire que dans d'autres milieux?
Je dirais pas que c'est plus compliqué, mais en tout cas, l'école attire tous les députés et attire tous les partenaires de l'école, parce que tout le monde est allé à l'école, tout le monde a eu un enfant qui est allé à l'école et tout le monde a un avis sur l'école.
Alors parmi les mesures, on le disait, qui suscitent le plus la controverse, c'est l'instruction obligatoire dès 3 ans et non plus 6 ans. Et ce qui pose le problème, c'est le financement de cette mesure, puisque les communes sont obligées de financer à parité les écoles publiques et les écoles privées sous contrat. Elles devront donc payer aussi désormais pour les maternelles privées. Mais vous l'avez entendu, certaines communes se plaignent, elles s'estiment lésées par rapport à d'autres. Pourquoi ?
Alors en fait, il y a deux situations pour les communes aujourd'hui. Celles qui finançaient pas les écoles maternelles privées, puisqu'elles n'en avaient pas l'obligation. Désormais, avec la loi, elles le devront, mais elles seront entièrement compensées par l'État. Ça, c'est la loi qui le prévoit, c'est l'extension de compétences qui le prévoit. Mais il y avait de nombreuses communes, et j'en connais beaucoup, qui finançaient déjà, en fait, l'école maternelle privée, parce qu'elles
avaient... Elles le faisaient spontanément.
Voilà, elles avaient un partenariat avec leurs OGEC, ce qu'on appelle les organismes de gestion des écoles privées, et elles les finançaient déjà. Ben, celles-ci, comme elles le faisaient déjà, ne seront pas compensées
de
ce qu'elles finançaient déjà. Et c'est vrai qu'elles s'en sont plaintes.
Mais ça s'entend, ça, leur critique, quand même, le fait qu'elles râlent.
Oui, ça
vous
s'entend, mais après, bien sûr, je les comprends, et je suis en lien avec un certain nombre d'associations d'élus à ce sujet, mais en fait, ce qu'on leur dit, et ce que j'ai dit hier dans l'hémicycle, puisque c'est à ce moment qu'on a débattu de ce sujet, c'est que, tout d'abord, cette dépense, elles l'assumaient déjà, et cette dépense n'est pas censée forcément augmenter. Cela relève de leur partenariat avec leurs écoles privées. Et ensuite, pour les grandes villes qui peut-être du coup financeront un peu plus l'école privée du fait de cette loi, nous avons eu hier l'annonce par le ministre de l'Éducation que ces nouvelles dépenses ne compteront pas dans la contractualisation avec l'État, et c'est ce que les grandes villes demandaient.
Alors pour le moment, l'État a prévu une compensation de l'ordre de 100 millions d'euros, mais ça va peut-être être plus d'après un amendement qui a été voté hier. L'État va sans doute devoir payer davantage, non ?
Non, a priori,
y a pas...
non.
Ah si, il y a eu une petite discussion quand même à l'Assemblée avec une question d'arbitrage, de Bercy.
Oui, donc c'est le sujet des 1,2% dont je vous parlais à l'instant. En fait, les grandes villes aujourd'hui sont dans un contrat avec l'État pour limiter leurs dépenses de fonctionnement. Et effectivement, si celles-ci augmentent du fait de la loi, elles ne seront pas comprises dans ce plafond. C'est ce qu'elles demandaient, ce que nous avons annoncé hier.
Hier aussi, les débats ont porté sur l'école inclusive et l'accompagnement des élèves en situation de handicap. L'opposition a proposé de nombreux amendements pour garantir leur scolarisation. Tous ont été rejetés. Pourquoi ?
Alors en fait, le sujet de l'école inclusive est au travail depuis de nombreux mois à l'Assemblée. Nous avons traité de deux propositions de loi, DLR d'une part, du groupe socialiste d'autre part. Et en même temps, une concertation avait été lancée par les deux ministres sur l'école inclusive. Ce qui s'est passé hier, c'est que nous avons introduit dans la loi un certain nombre de dispositifs sur l'école inclusive, et notamment sur les AESH, ces personnes qui accompagnent les enfants porteurs de handicap, des mesures qui sont à la fois issues de la proposition de loi socialiste que nous avons traitée le 31 janvier et à la fois de la concertation qui s'est terminée ce lundi. Donc il était normal que ce soit intégré par amendement hier et nous sommes très heureux des avancées qui ont pu être faites.
Sauf que visiblement ça ne suffit pas puisque l'opposition réclamait plus. Vous êtes frileux sur le sujet ?
Non, pas du tout.
Il y a un problème de financement ? Ça coûte cher ?
Non, pas du tout. En fait, nous sommes dans un processus d'amélioration continue sur un sujet qui est assez difficile, notamment le statut des AESH qui est essentiellement des contrats aidés et que nous accompagnons vers des contrats plus solides, vers de la formation initiale plus solide, un meilleur accompagnement, des référents aussi sur le handicap. Par contre, il y avait un certain nombre d'amendements avec lesquels nous ne sommes pas d'accord et que nous avons rejetés.
Vous avez entendu, j'imagine, les critiques que vous font les enseignants. Ils estiment que dans cette réforme, finalement, il y a plein de choses annexes et qu'on ne parle pas des priorités, que par exemple, les débats qui ont longtemps été occupés par cette histoire de drapeau qu'il faut mettre dans les classes, franchement, parler chiffons, ça ne sert à rien, il faut parler éducation. Vous comprenez cette critique ?
Alors, je comprends tout à fait cette critique des enseignants. Après, c'est le droit des députés d'amender. Et effectivement, nous avons débattu de sujets qui n'étaient pas prévus initialement dans la loi. C'est un peu ce qui se passe sur toute loi, bien sûr, débattue dans le Parlement. Nous aussi, nous sommes pressés de rentrer dans le cœur de certains sujets que nous avons travaillé depuis de nombreuses semaines. Nous en sommes, ce matin, nous allons reprendre à l'article 6 sur 25, avec beaucoup de sujets à venir, notamment la formation des enseignants qui nous intéresse. Mais c'est le jeu parlementaire.
Vous avez entendu parler évidemment du mouvement des stylos rouges, hein, oui. C'est quand même l'expression d'un mal-être dans la profession enseignante. Ils réclament des hausses de salaire, ils dénoncent des classes surchargées, ils dénoncent aussi le rouleau compresseur des réformes Blanquer. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une loi sur l'école à chaque nouvelle élection, à chaque nouveau gouvernement ?
Alors c'est vrai que nous avions dit que nous ne ferions pas de loi sur l'école. En fait, si cette loi existe aujourd'hui, si elle est débattue au Parlement, c'est parce que nous avons voulu abaisser l'âge de l'instruction obligatoire de 6 à 3 ans. C'est un progrès considérable. C'est
ça offrir... concerne que 26 000 enfants.
Hein. Oui, mais même ça en concernerait un, excusez-moi de vous le dire, mais... permettre à tous les enfants de bénéficier de l'école maternelle française, qui est internationalement reconnue, c'est important. Et puis, au-delà de cette instruction obligatoire à 3 ans, cette loi propose un certain nombre d'outils, des outils sur l'expérimentation, des outils sur l'évaluation, la réforme de la formation initiale des enseignants, autant de choses pour permettre aux enseignants d'améliorer leurs pratiques pour toujours plus de réussite de nos enfants.
Il y a déjà eu pas mal de réformes, hein. En plus de celle-ci, le dédoublement des classes de CP, le nouveau lycée, le nouveau bac. Après cette loi, c'est fini ?
Alors ça je ne peux pas m'avancer, bien sûr, et c'est au ministre qu'il faudrait poser cette question. Mais ce que vous dites est fort juste. En fait, cette loi, elle s'insère dans un ensemble de réformes. On a commencé par le doublement des CP et des CE1, c'était une réforme majeure. On est passé au bac, là on s'occupe de la maternelle, tous les âges sont importants.
Merci beaucoup Anne Brugnera d'être venue dans 5-7 ce matin. Je rappelle que vous êtes députée La République En Marche du Rhône.
Merci à vous.